aujourd'hui, mercredi 16 juin 2010, c'est la Saint-Congrès de la CFDT. Saint-Congrès de la CFDT est le saint patron des organisations patronales qui ont fait le choix de l'éco-conception et des achats responsables pour limiter les impacts environnementaux du Congrès, dont le bilan carbone s'élève quand même à 378 tonnes de CO2. Mais pour le bilan social, on verra après la signature. C'est dans une ambiance feutrée, dans la bonne ville de Tours, que des militants enthousiastes de la CF des Traîtres, syndicat jaune et marron de socialo-syndicalistes, ont mené des débats intenses pour leur 47e congrès. Soucieux de ne plus passer pour un syndicat félon, Saint-Congrès de la CFDT a donc accueilli et applaudi chaleureusement Bernard Thibault qui, sans honte aucune, a très volontiers accepté l'accolade de ceux qui savent dire non, non et non au report de l'âge légal après 60 ans et oui, oui et oui à l'allongement de la durée de cotisation. C'est un peu comme s'il disait non, non et non à la trahison des travailleurs, mais oui, oui et oui à la collaboration de classe. Un vrai truc de socialiste, quoi. Tout comme le PS, pendant politique de Saint-Congrès de la CFDT, tout comme le PS s'est mené des congrès à coups de motions issues de toutes ces tendances héritées de vieilles traditions trotskistes, Saint-Congrès de la CFDT sait jouer les syndicats de synthèse avec des motions à la con qui donnent l'illusion d'une vie démocratique au sein de cette saloperie pseudo-syndicale. Motion numéro 1. Avant d'aller signer, parce qu'on va le faire de toute façon, quelle compensation est-il raisonnable de demander ? Une prime à la case du service public, tapez 1. Un ticket restaurant valable dans les cuisines du MEDEF, tapez 2. Un peu de considération pour Chérec, qui a bien du mérite à essayer de grimper les échelons tout en rampant, tapez dessus. Motion numéro 2. Dans quelle mesure un déjeuner trop riche à l'Élysée nuit-il à l'usage du stylo à signer les réformes ? Motion numéro 3. Puisqu'il s'agit du dernier mandat de Chérec, est-il possible d'assurer une transition en douceur entre lui et le futur secrétaire général de la CFDT, Bernard Thibault ? Corollaire à la motion 3. Les CGTistes accepteront-ils d'échanger Thibault contre les 42% de militants CFDT qui refusent l'allongement de la durée de cotisation ? Corollaire bis. Que faire si la CGT offre gratuitement Thibault à la CFDT ? Motion numéro 4. Pour clarifier une bonne fois pour toutes la position du syndicat jaune et faire un pas en avant vers la modernité à reculons, faut-il abandonner le nom CFDT pour en adopter un plus en phase avec la réalité, à savoir Confédération Française Démocratique du Capital ? Etc, etc, etc. Et c'est de motion en motion que Saint-Congrès de la CFDT a été canonisé par 95% de camarades. Et oui, aussi surprenant que cela paraisse, les jaunes entre eux s'appellent camarades. Saint-Congrès de la CFDT a donc été canonisé pour avoir, une fois de plus, prouvé à la classe ouvrière qu'on a beau s'appeler une confédération, ressembler à une confédération, avoir la structure d'une confédération, on n'en reste pas moins une fédération de cons. Aujourd'hui, mercredi 16 juin, le soleil s'est levé à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard sans plus se soucier de Lénine. Il va se coucher ce soir, assassiner son frère, envahir l'Asie, sauver la race humaine, servir un mescal. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur le www.campuslille.com.
On retrouvera à la fin de cette émission un programme de Radio Habana, Cuba. Ce sera sinon la semaine à Cuba, en tout cas un programme de Radio Habana sur les 5, puisque la semaine ne nous est pas encore parvenue. Mais auparavant, retour sur une conférence donnée par Michel Collomb à Lille. C'était le 11 juin dernier, autour de son livre d'entretien intitulé « Israël, parlons-en ». Michel Collomb, c'est un militant du journalisme, on peut le dire, belge qui plus est. Vous pouvez avoir davantage d'informations sur ce livre et sur ce militant en tapant Michel Collomb avec deux L, il y tient à mon avis, sur Google ou un autre moteur de recherche. En tout cas, nous on a décidé de passer cette intervention quasiment en intégralité ce soir, sans même la couper de morceaux musicaux, car il nous semble que c'est un pur produit nécessaire pour comprendre ce qui se passe en Palestine, en Israël, et comment surtout on doit agir. Voilà, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche.
Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de là. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, il tue des pères et mères pour une poignée de billets verts.
Un quart d'heure en Palestine.
Je remercie la FPS et tous les amis de Lille qui m'ont permis de me trouver parmi vous ce soir. Et à mes yeux, c'est très important parce que nous avons vu tout récemment encore de quoi Israël est capable. Et nous savons que ce n'est pas la dernière fois, nous savons qu'il va continuer. Et c'est donc la question que nous nous posons tous avec angoisse depuis un bon moment. Que pouvons-nous faire pour l'arrêter? L'existence et la politique d'Israël sont justifiées par toute une série de mythes et de médias mensonges qui façonne l'opinion publique. En préparant ce livre, deux jeunes assistantes ont réalisé un vidéo-trottoir au hasard dans les rues à Bruxelles en interrogeant les gens sur ce qu'ils savaient d'Israël, son histoire, son passé. Et la chose qui frappe énormément, c'est l'ignorance, la méconnaissance quasi totale. À part une toute petite minorité, moins de 10% de gens qui sont pro-Israël et qui sont assez au courant, et une toute petite minorité, aussi moins de 10% de gens qui sont pro-palestiniens et relativement au courant, plus de 80% des gens, ils savent quasi rien. Après 60 années d'informations de médias qui se disent les meilleurs du monde, ça pose un problème. Surtout que les choses qui influencent les gens dans la rue vont toujours dans le même sens, et toujours dans le sens favorable à Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce livre. J'ai fait ce livre avec une vingaine d'entretiens avec des historiens, des experts, des analystes, des témoins directs aussi. On peut dire les meilleurs connaisseurs de ce problème, justement dans le but de fournir un argumentaire aux gens qui veulent discuter autour de soi, qui veulent pouvoir aller à contre-courant et rétablir la vérité par rapport à toute cette désinformation. Après ces 20 entretiens, j'ai résumé dans la partie que j'ai rédigée moi-même, comment parler d'Israël, ce que j'ai appelé les 10 grands médias mensonges. Et je crois que c'est important que chacun de nous puisse les maîtriser et pouvoir les expliquer très simplement autour de soi, mais avec les faits concrets qui peuvent montrer aux gens qu'effectivement, on connaît le dossier et qu'on peut prouver dans les faits ce qu'on avance. Le premier grand média mensonge, c'est cette idée justement que les Juifs auraient droit à faire ce qu'ils font en Palestine parce qu'il fallait leur offrir un refuge après tout ce qu'ils avaient souffert en 40-45. Israël serait donc la conséquence, l'effet du génocide de 40-45. En réalité, le projet de créer Israël a été formé beaucoup plus tôt, en 1897, au congrès de Bâle, où un mouvement nationaliste juif, qui va s'appeler le sionisme, décide qu'ils veulent coloniser la Palestine. Dans leur esprit, c'est totalement un projet colonial, et d'ailleurs, à l'époque, le mot colonialisme n'est pas honteux, il est revendiqué comme quelque chose d'assez moderne et progressiste. 10 ans plus tôt, à Berlin, s'est réuni un congrès des grandes puissances coloniales européennes. Il y avait là l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique. On s'est partagé l'Afrique entre grandes puissances comme un vulgaire gâteau. Il n'y a bien entendu aucun Africain invité. Et ça, c'est l'ambiance de l'époque. Et le mouvement nationaliste juif sait très bien que ce qu'il doit faire, c'est obtenir l'appui d'un parrain, d'une grande puissance coloniale qui va sponsoriser le projet, sinon c'est trop difficile. Il se tourne vers l'Empire turc-ottoman, qui n'est pas intéressé, et puis l'Empire britannique, lui, est très intéressé, pour plusieurs raisons. Pour affaiblir l'Égypte, qui est une puissance montante qui les inquiète dans la région, pour séparer en deux le monde arabe est et ouest, pour contrôler le canal de Suez, qui est la voie stratégique vers l'Inde, la colonie qui leur apporte énormément. Et donc les Britanniques vont accorder leur soutien total, ça les intéresse tout à fait que le mouvement nationaliste juif colonise la Palestine. Plus tard, les États-Unis vont prendre le relais, et eux, ce qui les intéressera, c'est le pétrole, mais ça, on va y revenir. Donc l'État d'Israël n'est absolument pas la conséquence de 40-45, mais d'un vieux projet colonial du 19e siècle. Le deuxième grand mythe qui justifie Israël, c'est l'idée que, en fait, les Juifs auraient été chassés de cette terre il y a 2000 ans et ils ne feraient que retourner sur la terre, qu'en plus Dieu leur aurait attribué. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai cru assez longtemps. Beaucoup de gens, je pense, en Europe, c'est ce qu'on nous dit à l'école. J'ai donc interrogé un historien juif israélien, Shlomo Sand, qui lui aussi a cru ça pratiquement toute sa vie. Et puis, un beau jour, il a été interrogé les historiens officiels d'Israël, les archéologues, et tout le monde lui a dit « Ah non, l'Exode, non, ça n'a pas existé, c'est un mythe, il n'y a absolument aucune preuve, aucun document, rien. C'est un mythe. » En fait, si on analyse l'histoire et les vrais documents, il y a bien entendu eu sur cette terre des guerres, des invasions, des mélanges, tout ça, comme partout. Mais en gros, les populations ne sont pas parties, elles sont restées. C'est qu'il y a deux conséquences cocasses. La première, c'est que, au fond, les descendants des Juifs de Jésus-Christ, les Palestiniens qui sont là maintenant. Quand on nous parle d'antisémitisme, c'est eux les descendants des Juifs. Et la deuxième conséquence cocasse, c'est que si personne n'est parti de là, mais alors ces Juifs qui disent « Nous revenons en Israël », c'est qui ? Puisque leurs ancêtres n'ont pas vécu là. En fait, leurs ancêtres étaient des Européens de l'Est, de l'Ouest, du Maghreb, d'un peu partout. Et tous ces gens n'ont pas des ancêtres communs, ils sont au contraire très divers, ils n'ont pas d'histoire commune, ils n'ont pas de langue et de culture commune, tout ce qu'ils ont, c'est une religion commune. Mais une religion et un peuple, c'est pas la même chose. On ne parle pas d'un peuple chrétien, ni d'un peuple musulman, et donc, comme dit Shlomo Sand, le peuple juif, ça n'existe pas. Troisième mythe qu'on nous a sorti pour justifier l'histoire d'Israël, c'est que Bien, effectivement, ils ont colonisé en 48, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la Palestine, c'était un désert, c'était une terre sans peuple, et donc ils ne faisaient de mal à personne en s'installant là. Ça aussi, j'ai cru longtemps. Et dans le livre, j'interroge des historiens qui expliquent que, pas du tout, dès le 19e siècle, même avant, mais au 19e siècle, vous avez des voyageurs occidentaux qui décrivent la Palestine comme un océan de blé. Vous avez des cultures d'huile d'olive, de sésame, de du savon, vous avez déjà les fameuses oranges de Jaffa. Il y a énormément d'exportations vers la France. Et au début du XXe siècle, la Palestine, c'est l'endroit du Moyen-Orient où il y a le plus de chemin de fer pour acheminer tout ça. Et donc, quand les colonialistes britanniques prennent possession de la Palestine en 1920, et puis ils favorisent les colonialistes juifs, ben, les paysans palestiniens sont furieux qu'on leur prenne leurs terres. Vous avez une grève qui va durer 6 mois à Jérusalem. Vous avez des manifestations très violentes, avec parfois une centaine de morts. Vous avez même une guérilla qui va durer 6 mois contre l'occupant et la colonisation. Donc c'est tout sauf un désert. Et tout ça ne va être brisé que par une répression féroce de l'occupant britannique et des sionistes qui essaient déjà de s'implanter petit à petit. Donc tout sauf un désert. Le quatrième grand mythe, c'est l'idée que, oui, peut-être, il y avait des Palestiniens, mais ils sont partis d'eux-mêmes. En 48, leurs dirigeants leur ont dit de quitter la Palestine. Bien, ce qu'ils ne voudraient déjà pas dire qu'ils n'ont pas le droit de revenir, mais bon, en réalité, ça aussi, on nous a raconté pendant longtemps. Et puis, sont venus en Israël, j'insiste, des historiens, comme... Benny Morris, qui est interviewé dans le livre, ou Ilan Pappé, on les a appelés les nouveaux historiens, qui ont dit que, pas du tout, tous les Palestiniens étaient partis à cause de la violence et des actes terroristes pratiqués par l'armée d'Israël et ses milices en 48, et que donc les Palestiniens avaient tout à fait raison d'appeler cet événement de 48 la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire le nettoyage ethnique d'une population. Donc vous avez là 4 mythes qui s'effondrent, tous les mythes censés justifier l'histoire d'Israël. Ça, c'est pour le passé, on va dire. Et maintenant, on va voir ces mythes qui concernent le présent. Le grand argument qu'on nous sert tout le temps pour justifier l'existence d'Israël, c'est, en tout cas, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est un état de droit, il faut donc protéger cette seule démocratie. Alors, je ne vais pas ce soir vous vanter les mérites de toute une série de pays voisins comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou la dictature de Moubarak en Égypte. Ça ne sont évidemment pas des démocraties, mais Israël non plus. Parce qu'Israël, si vraiment on prend au sérieux que c'est le colonialisme, c'est-à-dire le vol de la terre, et le fait de chasser un peuple de sa terre, mais je m'excuse, ça n'est jamais une démocratie, c'est toujours une dictature. Et bien entendu, on va nous dire qu'en Israël, il y a un parlement, c'est vrai, qu'il y a des médias, qu'il y a des profs d'UNIF critiques, oui. Et tout ça ne fait toujours pas une démocratie. Ça veut simplement dire qu'il y a, entre les voleurs, une démocratie pour savoir comment continuer à voler. Mais le colonialisme, jamais ne sera une démocratie. Ça doit être dit très clairement. Et bien entendu, les États-Unis n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont là au Moyen-Orient pour protéger justement la démocratie, la liberté, que sais-je. Si les États-Unis étaient préoccupés de défendre la démocratie au Moyen-Orient, et bien ça se saurait parce que justement, c'est eux qui ont mis en place les dictatures épouvantables, rétrogrades, féodales, réactionnaires, répressives dont je viens de parler, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Moubarak, etc., et qui les tiennent à bout de bras, d'ailleurs dans toute une série d'autres régions du monde aussi. Ce qui intéresse les États-Unis au Moyen-Orient, ce n'est pas la démocratie, c'est le pétrole. Et ça, Chomsky l'explique très bien dans l'entretien que j'ai eu avec lui. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir au Moyen-Orient un flic du pétrole. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, en tant que grande puissance, ne peuvent pas aller faire la guerre tous les 2 ou 3 ans contre n'importe quel gouvernement là-bas au Moyen-Orient qui leur résiste et qui ne veut pas donner son pétrole gratuitement. Déjà, quand ils font la guerre au Moyen-Orient, ils ne sont même pas capables de la gagner. Donc, ils ne peuvent pas aller là à tout bout de champ. Ça veut dire qu'ils ont besoin de ce que Chomsky appelle très justement le flic de quartier. Israël, c'est le flic de quartier chargé de menacer tout État du Moyen-Orient qui voudrait résister et ne pas donner son pétrole gratuitement. Avant ça, les États-Unis ont eu un autre flic du pétrole et Israël n'était pas si important quand les États-Unis avaient le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qu'ils avaient installé eux-mêmes, qui était un dictateur épouvantable, il faut quand même le rappeler, les États-Unis prétendent maintenant dire aux Iraniens ce qu'ils doivent faire, mais les États-Unis ont déjà gouverné l'Iran. En 1953, ils ont renversé le premier ministre élu Mossadegh, qui voulait nationaliser en partie le pétrole avec un raisonnement très simple. Mon pays est pauvre, les multinationales s'enrichissent, on va partager et je veux sortir mon pays de la pauvreté. Renversé par un coup d'État de la CIA. Remplacé par le Shah d'Iran, un dictateur épouvantable avec la SAVAK, une police politique, des dizaines de milliers d'opposants torturés, assassinés, etc. Donc les États-Unis, en Iran, ils ont déjà montré ce qu'ils savent faire. Le problème, c'est qu'ils ont perdu ce flic qui était le Shah d'Iran. Et donc, les États-Unis n'en ont plus d'autres parce que l'Égypte, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir la tenir très longtemps. L'Arabie Saoudite n'a pas la puissance politique et militaire de faire tout ça. Donc, il n'y a qu'Israël qui est leur flic là-bas. Quant à l'Europe, qui se dit souvent, qui se dit même tout le temps, nous, on n'est pas comme les États-Unis, on est démocrate, on n'est pas des cow-boys, on est neutre, on essaye de trouver une solution entre les deux parties. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas longtemps, le ministre européen des Affaires étrangères, Javier Solana, est allé à Jérusalem et il a dit aux autorités israéliennes, vous n'êtes pas membre officiellement, mais en fait, vous faites partie de l'Europe. Et c'est vrai. Parce que déjà, l'Europe est le premier partenaire économique d'Israël, qui sinon est un État financier non viable, en faillite. Et c'est l'Europe qui, financièrement, économiquement, tient Israël à bout de bras. C'est l'Europe qui finance son industrie de l'armement et qui l'aide. C'est l'Europe qui a donné le feu vert au bombardement contre Gaza en refusant de reconnaître le gouvernement légitimement élu et en désignant la population de Gaza pour les bombardiers du gouvernement israélien. Donc quand Netanyahou et les autres bombardent Gaza, c'est Sarkozy, Merkel et compagnie qui bombardent. Ça doit être dit clairement sur l'Europe. Alors quand on dit ce genre de choses sur le passé ou sur le présent, est-ce que vraiment Israël, on vous traite immédiatement d'antisémite. Ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose parce que on parle des langues sémites, mais pas tellement des peuples sémites. J'ai montré que ça n'avait pas de sens. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous êtes raciste anti-juif. Alors qu'il soit très très clair que dénoncer la politique du gouvernement d'Israël, ça n'est pas faire preuve de racisme, mais au contraire, dénoncer un État qui pratique le racisme, qui nie l'égalité entre les êtres humains, qui rend impossible l'égalité des droits entre les juifs, les musulmans et les autres au Moyen-Orient. Donc, ça n'est pas faire preuve de racisme, c'est au contraire vouloir qu'il y ait un avenir, une coexistence possible, une entente un jour entre les différentes nationalités et les différentes religions du Moyen-Orient. On dit effectivement que le problème avec les Palestiniens, c'est qu'ils sont violents. Pratiquent des attentats, ils résistent par les armes, etc. Il faudrait quand même faire remarquer que les Palestiniens ont déjà négocié et utilisé la voie diplomatique pendant des dizaines d'années et que tout ce qu'ils ont récolté en retour, c'est absolument rien du tout au niveau des concessions et des bombes sur la tête. Donc, il faut rappeler que la véritable violence, c'est le colonialisme, c'est le vol de la terre, c'est le fait que cette armée israélienne chasse les gens de leur terre, de leur maison, rend la vie quotidienne impossible, bloque les gens à des checkpoints de façon arbitraire pendant des heures et des heures. Vous avez des femmes enceintes qui perdent leur bébé dans des contrôles, etc. La violence, c'est ça. Et il faut rappeler que les Nations Unies, dans leurs textes fondamentaux, ont indiqué que là où il y a colonialisme et occupation coloniale, tous les peuples ont le droit à la résistance par les moyens qu'ils jugent bons. La violence, ça n'est pas l'occuper, ça n'est pas le coloniser. La violence, c'est l'occupant, c'est le colonisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir dire clairement. Et le dernier point qui est souvent avancé pour justifier Israël, c'est que, en fait, ce conflit n'a pas de solution. Il y a trop de haine entre les peuples et ça ne s'arrangera jamais. En fait, la solution, elle existe et elle est simple. Et elle a été proposée par les Palestiniens dès les années 60. toutes les organisations palestiniennes ont dit la solution, c'est que tous puissent vivre sur cette terre, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les laïcs, et en égalité, avec les mêmes droits, sans aucune discrimination. Tous. Personne ne veut jeter les juifs à la mer. Tous peuvent, mais personne non plus n'a le droit de prétendre qu'il y a des citoyens de première classe et des autres, ou des citoyens qu'on va expulser. Donc la solution, elle existe. Et il faut simplement dire que si elle n'est pas appliquée, si Israël a refusé toujours d'en discuter, c'est parce que, tout simplement, les États-Unis ont besoin d'un flic du pétrole au Moyen-Orient, et c'est ça qui empêche qu'il y ait la paix entre les Juifs et les autres au Moyen-Orient. L'idée du peuple élu, que la Bible aurait dit que c'est à eux d'être là. Dans ces textes, on raconte beaucoup de choses, et sans entrer dans la discussion si on doit y croire ou non, il y a quand même quelque chose de curieux en Europe. C'est que les pays européens nous disent « l'Iran, c'est pas bien ». L'Iran, c'est un État bâti sur la volonté de Dieu. Et donc, c'est discriminatoire. C'est pas moderne, c'est pas démocratique. Et l'État d'Israël, il est basé sur quoi, s'il vous plaît ? Sur le fait que Dieu a dit « vous devez être là » et les autres dehors. Où aurait dit ça ? C'est quand même ahurissant qu'au XXIe siècle, des États européens et les États-Unis qui se prétendent démocratiques et modernes viennent nous dire « vous devez partir parce que Dieu a dit que c'était les autres qui devaient être là ». C'est quand même aberrant. De toute façon, supposons même que l'exode aurait eu lieu et que vraiment les Juifs retourneraient à l'endroit d'où leurs ancêtres auraient été chassés. Et alors ? Le monde entier, il y a toutes sortes de pays où il y a eu des gens qui ont habité, et puis d'autres sont venus, et on les a chassés, ou ça s'est mélangé, et alors ? Si on commence à dire que dans le monde, tous les gens qui étaient ici il y a 2000 ans ont le droit de revenir et de chasser ceux qui sont maintenant, ben ça va être un joli carnaval dans le monde entier jusqu'à la fin des siècles, évidemment. Hein ? C'est absurde comme genre de conception. Je veux dire, on est en train de nous prendre pour des idiots quand on nous raconte des choses pareilles. Je pense que là, j'ai pris l'essentiel de ce que nous devons pouvoir répondre sur, je vais dire, l'histoire et la connaissance des faits et des intérêts stratégiques. Il y a d'autres problèmes, je le sais, ils sont abordés dans le livre, mais le but ce soir n'est pas de complet, c'est d'indiquer l'essentiel, et surtout d'indiquer un deuxième problème qui me semble peut-être encore plus important que celui des connaissances qu'il faut avoir, et ce problème-là, c'est celui de la stratégie de discussion, de la méthode pour être efficace et convaincant. Et là, je crois qu'effectivement, on a un gros problème. Quand j'ai commencé ce bouquin, j'ai demandé à un jeune Marocain qui vit à Bruxelles, quand tu discutes sur Israël, c'est quoi la difficulté ? Et il m'a dit, eh bien, tu devrais vraiment être un super expert parce que tu as 5 minutes pour convaincre quelqu'un qui a des années de télé dans sa tête. Et c'est vrai. Le type en face, il croit savoir. Et alors, il me disait, Rachid, c'est le nom de ce jeune Marocain, ben, j'ai 5 minutes, j'y arrive pas et je m'énerve. Ça nous est déjà à tous arrivé de nous énerver dans ce genre de discussion. Et évidemment, quand on s'énerve, on a perdu, c'est fichu. Et donc, le problème, c'est comment on va pas s'énerver. Et je crois que la première chose à comprendre, c'est comment ça se fait que les gens sont à ce point désinformés. C'est-à-dire, comment fonctionne le système des médias. Ceux qui ont déjà suivi mes travaux et mes livres précédents savent que c'est un peu mon dada, et je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir expliquer tous les problèmes du monde contemporain, toutes les guerres, les injustices, comment l'info est faite, qui fait l'info. Et si on prend la question d'Israël et de l'info en France, il faut constater une chose. L'info en France est dominée par 3 grandes familles, à savoir Dassault, Lagardère, Bouygues. Il y en a d'autres, bien sûr, mais on va centrer sur ces 3-là. Et ces 3 familles sont toutes les 3 liées à l'industrie de la guerre et de l'armement, font toutes les 3 un business énormément profitable avec Israël, et toutes les 3 piétinent la liberté de leurs journalistes, tout en s'affirmant, bien entendu, les plus beaux médias du monde. On va voir de qui il s'agit, et tout d'abord Dassault. C'est la fortune numéro 87 dans le monde, numéro 5 en France. Dassault, c'est le groupe Le Figaro. Et la fortune de la famille Dassault, elle a été construite avec des avions de la mort, avec les Mirage, avec les Rafales. Et le père du Dassault actuel, Marcel Dassault, déclarait à l'époque « Grâce à nos avions, nous avons sauvé Israël en 67 ». Il voulait dire « Nous avons aidé Israël à gagner la guerre d'agression par laquelle il a triplé son territoire ». Donc, pas tellement neutre Dassault par rapport à Israël. Et alors, sur la question de la liberté de ces journalistes, c'est intéressant de citer le Dassault actuel, Serge, qui a déclaré, je cite, « Un journal permet de faire passer un certain nombre d'idées saines, les idées de gauche sont des idées pas saines. » Et dans une école parisienne du journalisme, cessez de former des journalistes de gauche. Il a d'ailleurs appliqué ça en virant du conseil de surveillance du Figaro tous les membres trop indépendants. Et la question, évidemment, est-ce que les journalistes de Dassault vont avoir le droit de raconter aux lecteurs de Dassault que leur patron, il fait tellement de profit grâce à la vente d'armes à Israël. Le numéro 2 de ce beau trio, c'est Lagardère, l'homme qui a dit un jour « Sarko, c'est mon frère ». Et Lagardère, c'est en fait le groupe médiatique français le plus puissant. Il contrôle une série de télé, des radios, des quotidiens, des magazines aussi. Quand vous achetez dans une librairie un magazine, une chance sur deux que c'est du Lagardère, avec, je cite, Paris Match, Marie-Claire, Entrevue, Parents, Télé 7 jours, Elle, Photo. Toute une série de maisons d'édition. Si vous achetez un bouquin littérature, politique ou autre, pas ce soir ici bien entendu, hein, mais en général, une chance sur deux que c'est du Lagardère aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau des maisons d'édition, Lagardère contrôle Hachette, Attier, Grasset, Fayard, Livre de Poche, Stock, Masque, Lattès, Harlequin, Calman Lévy, etc., etc. Et alors, pour vous imposer tout ça dans les rayons, des distributeurs qu'ils contrôlent, qui sont Relay, AMP, Press Shop et encore toute une série. Donc la boucle est bouclée, quoi. On est vraiment encerclé par le monopole Lagardère. Et M. Lagardère vaut bien d'assaut sur le plan de sa conception de la liberté d'expression, puisqu'il a dit en 2006, je cite, « C'est quoi l'indépendance en matière de presse du pipeau ? Avant de savoir s'ils sont indépendants, les journalistes feraient mieux de savoir si leur journal est rentable. » Et cette conception-là, il l'applique. Monsieur Genestard était le rédac-chef de Paris Match. Et un jour, Genestard a un beau scoop, croit-il, il publie que Madame Sarkozy n'a pas voté à la présidentielle. Abstention. Enfin, c'est pas présenté au bureau de vote. Coup de fil de Sarko, coup de fil de Lagardère, et le rédac-chef saute. Alors, si on n'a même pas le droit de raconter une chose aussi banale, aussi secondaire, est-ce que vous pensez que les journalistes de Lagardère vont avoir le droit de raconter à leurs lecteurs que leur patron, c'est aussi le plus grand marchand d'armes de France et d'Europe, avec le groupe EADS, avec l'avion Airbus qui est civil mais aussi militaire, avec les hélicoptères de combat, avec Eurofighter, le bombardier européen, et avec, tenez-vous bien, un partenariat avec Israel Aircraft Industries pour construire des drones. Ce sont, vous savez, des avions sans pilote qui font la reconnaissance et qui vont observer là où il faut aller bombarder les Palestiniens. Et donc Lagardère construit des drones avec Israël, avec la bénédiction de l'État français et de Sarko, puisque la Direction générale de l'armement a mis 2 milliards dans ce projet pour construire 40 drones qu'on va vendre en Europe. Et bien entendu, avoir un partenariat avec Israël, c'est le bon argument de marketing, hein, tant que marchand d'armes. Si vous pouvez dire « Mes armes, elles tuent bien, regardez, là et là. » Et là, évidemment, vous vendez bien. Et donc, j'ai dit que ce sont des avions sans pilote, mais il faut savoir aussi que ce sont des avions qui sont parfois même équipés de missiles pour aller bombarder eux-mêmes, et qu'on en a eu un exemple au Liban en 2006, lorsqu'Israël a agressé le Liban. Les villageois de Joubianin se sont retrouvés encerclés, ils ont négocié, Israël a dit « Vous pouvez faire un convoi et partir par cette route ». Et lorsque le convoi s'est formé, Israël a bombardé. Et je cite le journaliste de Reuters, « La première bombe a frappé la deuxième voiture du convoi. Je remontais la route à mi-chemin. Et mon ami Elie se tenait là, me demandant si j'avais un peu d'essence en route. » C'est à ce moment-là que le second missile a frappé. La tête et la tête et les épaules d'Élie furent arrachées. Sa fille Sally, qui a 16 ans, a sauté de la voiture et s'est mise à hurler « Je veux mon papa, je veux mon papa », mais il n'était plus. C'est avec ce genre d'exploit que Lagardère construit sa fortune de milliardaire. C'est avec ce genre d'exploit que Sarko, c'est ce genre d'exploit dont Sarko est complice en construisant l'alliance militaire France-Israël. Et c'est évidemment ce genre d'exploit que les journalistes de Lagardère n'auront pas le droit de raconter aux lecteurs de Lagardère. La troisième famille de ce magnifique trio, c'est Bouygues, TF1. La chaîne TF1, toute une série d'autres chaînes, grosse société de production de films, premier éditeur de vidéos en France, une série de presse magazine, de produits dérivés, un tiers de métro. Et M. Bouygues, enthousiasmé par le splendide cadeau que lui faisait l'État français en 87 avec la privatisation de TF1, chaîne publique, Bouygues s'écrit, je cite, « Les images sont le pétrole du siècle prochain, TF1 n'est que la station-service ». Ça, c'est une comparaison qui montre la noblesse de la mission d'informer selon la famille Bouygues. Et la station-service, elle rapporte bien, parce que du coup, la famille Bouygues est devenue fortune numéro 177 dans le monde. Et au conseil d'administration et parmi les actionnaires de TF1, vous avez les plus gros milliardaires de France, Pinault, Arnault, etc. Donc quand on regarde TF1, on écoute les milliardaires, ça doit être clair. Et alors, en analysant justement ce conseil d'administration de TF1, j'ai trouvé un nom que je ne connaissais pas et qui m'a intrigué. C'est celui de Harlam Saban. C'est un citoyen américano-israélien. Il y a vraiment intérêt à le connaître parce qu'il a la double nationalité. Il a fait sa fortune à Hollywood avec, pour les plus jeunes, les Pokémon, Fox Kids, tout ça. Il a revendu ça 5 milliards à Disney. Et avec ce pactole, il s'est procuré un gros consortium de chaînes télé en Europe qui s'appelle ProSiebenSat. Il y en a pratiquement dans tous les pays européens, sauf la France. Et puis, Saban, aux États-Unis, c'est un grand copain de Clinton, de Schwarzenegger, de toutes les grandes huiles de la politique des États-Unis. Et c'est surtout un homme très, très influent. D'une part, c'est un des grands financiers de l'AIPAC, le lobby sioniste numéro un aux États-Unis. Par exemple, Saban finance des soirées où il y a des formations pour des jeunes juifs pour aller défendre Israël dans les campus universitaires, critiquer le boycott, etc. Puis un deuxième instrument de Saban aux États-Unis, c'est le Washington Institute, c'est un bureau d'études et de réflexion pour élaborer la politique des États-Unis et d'Israël. Et pour réaliser ça, Saban s'est attaché les services, il paye, les pires bandits de la politique internationale des États-Unis des 40 dernières années, à commencer par Henry Kissinger, l'homme qui a bombardé férocement le Vietnam, le Laos, le Cambodge, l'homme qui a renversé le président élu du Chili Allende pour le remplacer par le dictateur fasciste Pinochet, et qui a d'ailleurs organisé la plupart des dictatures militaires en Amérique latine et ailleurs. À côté de lui, vous avez une série d'autres bandits qui ont été ministres des Affaires étrangères, ou directeur de la CIA, sous Reagan, sous Bush, etc. Donc vraiment la crème des bandits. Voilà les hommes que finance Saban aux États-Unis. En Israël, Saban est très influent. Il contrôle la téléphonie par satellite. C'est un des plus grands businessmen d'Israël. Et Ariel Sharon disait « Saban sera toujours un cher ami personnel pour moi ». Quant à Barack, quand il a formé son gouvernement, c'est directement Saban qui le conseillait pour le choix de ses ministres. Saban a dit il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il y a une attaque terroriste, je suis avec Lieberman, le ministre fasciste des Affaires étrangères actuel, parfois même plus à droite que Lieberman. Voilà donc Saban, au conseil d'administration de TF1, ajoutant spontanément qu'il est grand copain avec les dirigeants de la plupart des grands médias audiovisuels et autres en France, et voilà Dassault, Lagardère, Bouygues, Saban et tous ces gens-là qui nous font l'information sur le conflit israélo-palestinien en France. Bien sûr, il y en a d'autres, et je pourrais encore multiplier les exemples. Un de mes jeunes collaborateurs dans le site michelcolomb.info a publié il n'y a pas longtemps un article sur la manière dont David Pujadas à France 2 avait servi de paillasson, il n'y a pas d'autre mot, pour une interview de l'ambassadeur israélien. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Par rapport à cette situation-là, on a deux possibilités. Soit pleurer, en disant « ça y est, l'info c'est foutu, mais je pense que vous n'êtes pas venu ici pour pleurer ce soir », soit se poser la question « comment est-ce que nous pouvons faire pour contrer cette désinformation ?» Et je pense que la première condition pour y arriver, c'est de maîtriser ce que j'ai appelé déjà dans un ouvrage précédent les cinq principes de la propagande de guerre et qui me semblent vraiment la clé pour comprendre le problème. Les cinq principes de la propagande de guerre, c'est quoi ? Ben, si vous êtes une grande puissance qui voulait attaquer un peuple, un pays, contrôler des richesses, etc., il y a une chose que vous ne pouvez pas dire, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire on fait cette guerre pour le pétrole, pour le fric des multinationales, vous n'auriez pas de soutien. Dès lors, vous devez raconter des histoires et vous devez cacher les choses essentielles. Les cinq principes de la propagande de guerre sont, premièrement, cacher les intérêts économiques. Chaque fois que les grandes puissances sont intervenues au Moyen-Orient, ça a toujours été pour le pétrole. Si les États-Unis versent 3 milliards au moins de dollars d'aide militaire chaque année à Israël, c'est pour le pétrole. Et si les États-Unis et leurs alliés s'en prennent à Hugo Chavez, c'est évidemment aussi pour le pétrole. Parce qu'au Venezuela, avant Chavez, c'était bien pour eux. Le pétrole a coulé à flot, et pendant 80 ans, il y a eu des bénéfices extraordinaires pour les riches du Venezuela et pour les multinationales. Quand Chavez arrive au pouvoir, il trouve dans son pays 80% de gens sous le seuil de pauvreté. Ça, avant, pour eux, c'était bien. Et maintenant, Chavez veut changer les règles du jeu, et il dit, l'argent du pétrole, c'est fini, ça va aller dans les caisses de l'État, on veut bien des partenariats, mais honnêtes, et il faut que le Venezuela touche l'argent de son pétrole, et grâce à ça, on va mettre fin à l'analphabétisme, on va donner l'éducation à tout le monde, on va donner des soins de santé gratuits à tout le monde, on va donner à manger, on va développer une économie, un travail, des coopératives, bref, une vie digne pour le peuple. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on a tenté de renverser Chavez, qu'on veut l'assassiner, qu'on prépare une invasion par la Colombie. Enfin, on ne sait pas, par tous les moyens, on essaye. Et c'est pour ça que Chavez est le diable et rien d'autre. Donc, le premier principe de la propagande de guerre, il est très simple. Il faut cacher le fait que les guerres sont économiques et présenter les guerres comme morales, humanitaires, sauver la paix, blablabla. Le deuxième principe de la propagande de guerre, c'est d'inverser l'agresseur et la victime. Ça, c'est très très important. Il faut se faire passer pour la victime ou pour celui qui vole au secours de la victime. Quand Hitler, ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses nouvelles. Quand Hitler a fait tout ce qu'on sait, mais il prétendait déjà qu'il défendait le peuple allemand ou les minorités juives à l'étranger contre le grand complot judéo-bolchevique. Il était la victime. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, c'était aussi le Vietnam qui était l'agresseur, il voulait attaquer ses voisins, il voulait imposer les dictatures dans toute l'Indochine, etc. Alors, la réalité était beaucoup plus simple. Le Vietnam avait été colonisé par les Japonais, par les Français, par les États-Unis, il voulait juste son indépendance, mais ça, évidemment, il fallait qu'on le présente comme un agresseur, etc. Quand les deux Bush, père et fils, ont attaqué l'Irak, ça a été la même chose, soi-disant, ils volaient au secours de la victime, et chaque fois qu'Israël agresse un de ses voisins pour augmenter son territoire, c'est toujours en légitime défense. Le deuxième principe de la propagande de guerre, donc, c'est de se donner le beau rôle, celui de la victime. Le troisième, c'est de cacher l'histoire. Et ça, c'est très très important aussi. Si vous êtes une grande puissance qui intervenait dans une région, vous n'avez rien à faire. Il vous faut un prétexte. Donc il vous faut un conflit. S'il n'y a pas de conflit, on le provoque ou on l'excite. Et on cache évidemment ce rôle des grandes puissances coloniales dans la création du conflit. On va prendre un exemple qui va sembler un peu éloigné, mais qui va être utile. L'Irlande. Quand on parle de l'Irlande à la télé, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, c'est incompréhensible. Vous avez les catholiques et les protestants, et ils se disputent tout le temps. Heureusement, il y a l'Angleterre au milieu pour les séparer et garder la paix. Ça, c'est un mensonge total, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? En réalité, c'est l'Angleterre qui a colonisé l'Irlande à partir du XIIIe et particulièrement au XIXe en important des colons protestants et en essayant de soumettre l'Irlande catholique. Et donc c'est l'Angleterre qui a créé le conflit. Et pas du tout le pompier, c'est le pyromane. Et elle utilise des colons pour essayer de maintenir sa domination et diviser les gens. Le classique diviser pour régner. Et il y avait une utilité très économique très importante à cette colonisation de l'Irlande. C'est que en 19e siècle, le capitalisme naît en Angleterre, ou plutôt, il n'est pas, mais il se développe énormément, avec des très grosses usines qui ont besoin d'ouvriers, des ouvriers qu'on va payer le moins cher possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ruine tous les paysans anglais, le gouvernement organise ça, et les paysans sont obligés d'aller se vendre comme force de travail aux usines pour un salaire plancher. Bien, il faut les nourrir, et les nourrir le moins cher possible. Ça va être le blé irlandais qui va nourrir les ouvriers anglais, et comme on ne le paye quasiment pas, mais les ouvriers anglais non plus, et on est très concurrentiel face aux concurrents européens. Donc c'est une guerre économique, cette colonisation. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on va nous raconter. Je vais prendre un deuxième exemple, le Rwanda. Qu'est-ce qu'on nous a dit là? On nous a dit, là aussi, c'est incompréhensible. Vous avez les Hutus, vous avez les Tutsis, et ils ne s'entendent pas, et heureusement qu'on est là pour les séparer. Pas ça du tout. Ceux qui ont introduit et organisé cette division délibérément, c'est le colonialisme belge d'abord, qui a obligé les gens à mettre sur sa carte d'identité « je suis Hutu, je suis Tutsi », etc. Qui a ensuite favorisé systématiquement une fois une minorité des uns, une fois une minorité des autres, et excité de nouveau le diviser pour régner. Puis les colonialistes français ont pris la relève en armant les génocidaires Hutu, et on cache soigneusement le rôle des puissances coloniales. Je pourrais donner encore énormément d'exemples sur les causes réelles de la pauvreté en Amérique latine, en Afrique, etc. Mais donc, l'idée, elle est claire. Il faut absolument empêcher le public de comprendre les causes historiques d'un conflit, c'est-à-dire comprendre l'action des puissances coloniales et l'action des multinationales. Le quatrième principe de la propagande de guerre, c'est ce qu'on appelle la diabolisation. Si vous voulez convaincre votre opinion de vous suivre dans cette guerre qui va coûter, il faut absolument lui flanquer la trouille. Il faut la persuader. Votre opinion, qu'elle est menacée par un grand danger. Et là, ça aussi, c'est pas nouveau, ce que je vous raconte. Vieux truc. À prendre l'exemple de 1956. L'Angleterre et la France attaquent l'Égypte, où il y a un nouveau président, Nasser, qui est un anticolonialiste, qui réclame l'indépendance de son pays, qui veut nationaliser le canal de Suez, qui au fond est en Égypte, c'est quand même logique. Et du coup, l'Angleterre et la France bombardent l'Égypte en 1956. Et que pouvez-vous lire à ce moment-là, à la une du monde, ou entendre dans la bouche de gens comme Mitterrand, qui est ministre au Guimolais? Eh bien, vous pouvez entendre que Nasser, le président égyptien, Nasser égale Hitler. Vous avez bien entendu, Nasser égale Hitler. Ça, c'est le truc numéro un de la diabolisation, bien entendu. Si vous parvenez à mettre le bonhomme que vous attaquez dans la peau d'Hitler, vous avez gagné, on doit vous soutenir, bien sûr. Et ça, on va l'utiliser tout le temps, à tout bout de champ, vous allez le reconnaître dans d'autres conflits. Bien entendu, on l'a utilisé contre l'Irak. Et là, pour la diabolisation et flanquer la trouille, on a eu toute la panoplie. Hein. Pour les plus anciens se souviendront que l'Irak, c'était la quatrième armée du monde, terrifiante, avec des missiles qui pouvaient atteindre la Côte d'Azur en avant. Et puis, ça a été les armes de destruction massive, puis c'était l'allié d'Al-Qaïda, enfin, tout y passe. Et alors, je parlais de Chavez il y a un instant, là aussi, la diabolisation est bien en route. Chavez, un jour, il est le grand complice du terrorisme. Un autre, c'est un complice des trafiquants de drogue. Et le troisième, comme il est pote avec l'Iran, donc c'est les armes de destruction massive aussi, etc. Et donc, on ne sait pas encore très bien au nom de quoi on va faire la guerre au Venezuela, mais déjà, tous les prétextes sont là et on les essaye les uns après les autres. La diabolisation, c'est donc le quatrième principe de la propagande de guerre. Il faut absolument neutraliser l'opinion publique en lui flanquant la trouille. Le cinquième principe, on va être bref, c'est la monopolisation de l'info, c'est-à-dire la censure, empêcher le débat, empêcher le public d'avoir accès à la version de l'autre camp, aux victimes, aux experts, aux analystes de l'autre camp, et le public ne peut avoir qu'une seule opinion. Voilà donc ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre. Cacher les intérêts économiques, inverser l'agresseur et la victime, cacher l'histoire, diaboliser, monopoliser. Ces cinq principes, je pense qu'il est absolument fondamental de pouvoir les appliquer dans l'ensemble des guerres déclarées au nom des grands conflits du monde contemporain. Parce que si on peut expliquer ça d'une façon générale, on va, à mon avis, être beaucoup plus convaincant dans la discussion. On a eu là, il y a un instant, et c'est une remarque que j'ai entendue, mais partout, dans chaque ville, on a eu là, oui, mais toi tu es arabe, donc c'est normal que tu soutiens les Palestiniens, tu n'es pas crédible. Ça, on l'entend tout le temps. C'est profondément injuste. Parce que le type qui vous dit ça, il en sait en général 5 fois moins que vous dans le conflit. Sur le conflit, je veux dire. Mais il va falloir en tenir compte. Et si on veut le convaincre, il va justement falloir être capable de lui parler pas seulement d'Israël et de la Palestine, mais aussi, comme je viens de faire, de Chavez et d'Evo Morales et du Congo et de tous les grands conflits entre les colonisés et les colonisateurs, entre les multinationales et les peuples qu'elles exploitent. Et à ce moment-là, vous allez être convaincant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir convaincre la personne avec qui vous parlez que vous êtes de son côté, parce qu'en fait, vous vous battez pour qu'il ait le droit à une information correcte sur l'ensemble des conflits, et pas seulement sur Israël. Donc je pense que ces 5 principes de la propagande de guerre, c'est vraiment quelque chose de très nécessaire à pouvoir expliquer. Et faites l'exercice de les appliquer à d'autres conflits dont je n'ai pas parlé, et vous allez voir qu'on les retrouve tout le temps. Le problème est de savoir pourquoi il est si difficile de parler de ce conflit comme vous l'avez relevé là en commençant. Je pense que le problème, il est lié au maintien du colonialisme. Officiellement, le colonialisme a disparu, mais en réalité, non. Je pense que le colonialisme, il subsiste encore dans la tête des Européens, très profondément. Et c'est quelque chose qui a été exprimé d'une façon originale par l'écrivain Régis Debray, qui a dit à propos de ce complexe de supériorité des Européens qui pensent tout savoir mieux que tout le monde, il disait, ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. Et je pense que c'est très profond, et qu'en fait, c'est assez logique, étant donné que l'Europe, elle a colonisé le monde entier, par la violence, brutalement, pendant 5 siècles. Il faut dire que l'Espagne et toute l'Europe avec elle, parce que c'est l'Europe qui finançait l'Espagne pour coloniser l'Amérique latine, a colonisé brutalement l'Amérique latine et opéré le génocide contre les Indiens, qui sont 60 millions à l'arrivée des colonisateurs et 10 millions un siècle plus tard. C'est l'Europe qui a pratiqué la traite des esclaves, privant l'Afrique de ses meilleures forces, 10 millions d'hommes et de femmes jeunes arrachés à l'Afrique, bloquant son développement économique pour aller travailler comme esclaves en Amérique latine ou en Amérique du Nord, les champs de coton, et créer les grandes fortunes françaises et autres qui durent encore toujours en Europe maintenant et qui ont démarré avec la traite des esclaves dont évidemment on ne parle pas. C'est l'Europe aussi qui colonisait la Chine au XXe siècle collectivement et qui, à l'entrée des parcs de Shanghai, plaçait des écriteaux interdits aux chiens et aux chinois. L'Europe, c'était ça pendant des siècles. Et pour donner un exemple concernant mon pays, le souverain de mon pays, Léopold II, s'est construit une fortune colossale en obligeant les Noirs à extraire le caoutchouc pour lui, et quand ils refusaient, il leur faisait trancher les deux mains, et ça s'est pratiqué massivement. L'Europe, c'est ça. Évidemment, il est resté des traces de tout ça dans les mentalités, d'autant plus que pour justifier tant de crimes, il fallait l'idéologie qui aille avec. Et l'Église catholique, il faut le rappeler, a dit pendant des siècles, quand vous tuez un noir ou quand vous le réduisez en esclavage, ce n'est pas un péché parce qu'il n'a pas d'âme, l'Église catholique. Et après, il y a eu un très grand progrès, c'est qu'on a concédé que oui, ils avaient une âme, mais quand même de seconde classe, et que de toute façon, c'était évidemment à nous à les civiliser, à les moderniser, etc. L'Europe, c'est ça. Et ça a des conséquences très profondes encore aujourd'hui. Je pense qu'il reste un complexe de supériorité chez ceux qu'il faut appeler les colonisateurs, les Blancs, les Franco-Français. En ce sens que ce complexe de supériorité mène à penser qu'on sait tout mieux, qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire dans les autres pays et régions du monde, quel gouvernement démocratique leur convient, on sait même mieux qu'eux comment leurs femmes doivent s'habiller. Et donc il y a vraiment un complexe très profond. Et inversement, il y a chez celui que je vais appeler le colonisé, l'arabe ou le noir aussi, il y a, je pense, aussi un complexe d'infériorité, un complexe de colonisé. Et ça mène, par rapport à tout ce que je viens de dire et à la difficulté de persuader les Franco-Français, ça mène, il faut bien le dire, un manque de confiance, à une certaine passivité, à un certain fatalisme, on n'arrivera jamais à convaincre les Français. Et ça, c'est un problème, parce qu'alors, pleurer entre soi, évidemment, on ne va rien changer à la situation. Et donc, je pense que c'est très, très important, par rapport à cette situation, de créer ce que j'appellerais un espace de débat démocratique entre l'ex-colonisateur et l'ex-colonisé, entre le blanc, le noir, l'arabe. Et je pense que cet espace de débat démocratique, c'est-à-dire discuter avec l'autre, avec celui avec qui c'est plus difficile, sortir de son ghetto, des petites habitudes de sa communauté, c'est seulement ça qui va nous permettre d'avancer. Et c'est un débat qui va être enrichissant des deux côtés. Parce qu'il faut que le colonisateur ou ex-colonisateur arrive à prendre conscience que, pour bien comprendre comment le monde fonctionne, on est obligé de se placer en bas, du point de vue des victimes. Que donc, en écoutant le colonisé, on va apprendre énormément. Et dans l'autre sens, il est clair aussi qu'il y a eu en Europe des luttes pour le progrès social, pour la démocratie, qui sont importantes, dont il y a beaucoup à tirer, de sorte que cet échange, il va être enrichissant dans les deux sens. Et je pense que ce débat entre coloniser le colonisateur, il est fondamental. À l'époque où certains sont en train de développer le plus possible le racisme et l'islamophobie, nous allons en avoir besoin dans tous nos combats, qu'ils soient démocratiques, sociaux ou anticoloniaux. Pour arriver à mener cette tâche, je pense que on a besoin de confiance en soi, on a besoin de connaissances et on a besoin d'une méthode. La confiance, c'est l'idée que oui, on peut gagner face aux médias, ils ne sont pas tout-puissants. Et je voudrais donner deux exemples, parce que souvent on entend ça, les médias sont tout-puissants, on n'y arrivera pas, ils ont tous les moyens pour intoxiquer les gens. On peut gagner contre eux. J'ai parlé de Chavez, en 2002, il y a eu un coup d'État militaire, bien entendu fabriqué par la CIA, Chavez est emprisonné, et le palais présidentiel est occupé par les putschistes. Il y a des grandes manifestations, mais directement les putschistes ferment la télé, censurent l'info, ils passent du baseball et des dessins animés, et donc, que font faire les gens? Eh bien, ils vont envoyer des SMS partout. Mais il y a des motards qui vont aller de quartier en quartier dire « Chavez n'a pas démissionné, il y a de grandes manifestations, mobilisez-vous ». Et le coup d'État va échouer en 48 heures, grâce à l'info populaire faite par les gens eux-mêmes en bas. Et vous avez un exemple, même en France. Souvenez-vous du référendum à propos de la Constitution. Tous les médias avaient dit « il faut voter oui », le vote était plié, c'était clair. Et les gens ont lancé sur Internet un débat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Constitution? Est-ce que c'est vraiment notre intérêt? Et le débat s'est développé formidablement et le don l'a emporté. Donc on peut gagner. Le deuxième point, je disais, pour gagner cette bataille des médias, c'est la question des connaissances. Il ne faut pas maîtriser des bibliothèques entières pour être capable de discuter ce conflit israélo-palestinien. Les 10 grands médias mensonges dont je viens de parler, c'est l'essentiel. Je pense que si on maîtrise ça, et avec quelques lectures et les entretiens qui sont dans le bouquin ou des choses pareilles, on est parfaitement capable de répondre à toutes les choses que les gens peuvent nous dire. On est parfaitement capable de convaincre. Mais évidemment, ces connaissances, il est important qu'elles puissent être placées dans un contexte, dans un cadre global qui donne une analyse correcte de ce conflit. Et là, il est important de dire que ce conflit israélo-palestinien, ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de religion pour une raison très simple. C'est que, les Palestiniens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des laïcs, ils sont tous contre le colonialisme. Et que deux, pour les États-Unis, il y a des musulmans qui sont absolument épatants. Le roi d'Arabie Saoudite, les émirs du Koweït, Moubarak, magnifique, des peu de ces musulmans-là. Et inversement, Chavez, pas un musulman que je sache, mais c'est le diable. Donc, exit la guerre de religion. Ça n'est donc pas non plus ce qu'on trouve souvent, un complot juif, vous savez, les juifs, ils tiendraient le monde entier, tout ça. Ça, c'est la reproduction du vieux schéma raciste. Et ça n'est pas non plus ce qui circule malheureusement beaucoup sur Internet, le fantasme du complot des Illuminati. Vous savez, cette secte que personne n'a vue, là, on ne sait même pas qui c'est, ils se réunissent dans une cave avec le diable, et c'est eux qui contrôlent le monde, etc. Blablabla. Ça, c'est des trucs qu'on ne peut rien faire, parce qu'ils n'existent pas, de toute façon, que voulez-vous faire? Et il est très important de combattre ces fantasmes, et de dire qu'en fait, le conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement la conséquence du système économique et social dans lequel on vit. Mettez-vous un instant, je vous prie, excusez-moi, mettez-vous un instant à la place des maîtres du monde et des riches qui contrôlent les multinationales, qui contrôlent le monde entier. Vous êtes donc très riche, vous avez en face de vous tout le tiers-monde qui est très pauvre, vous avez même en Europe de plus en plus de pauvres aussi, et le problème que vous vous posez, c'est comment je vais maintenir mon pouvoir, comment je vais garder le contrôle de la planète. La première chose que vous devez faire, évidemment, c'est contrôler les matières premières. Et la matière première la plus importante, c'est le pétrole. Et donc, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas aller faire la guerre vous-même toutes les 5 minutes, donc vous avez besoin d'un flic du pétrole. Et Israël est le flic du pétrole. Donc voilà pourquoi Israël est utilisé par les multinationales. Et d'ailleurs, vous avez dans d'autres régions du monde, d'autres flics des matières premières, ça n'a rien à voir ni avec les Juifs, ni avec les Illuminati, ni quoi que ce soit. C'est la logique du système capitaliste, de la bataille pour les matières premières et la domination mondiale, c'est que ça. Cette distinction, c'est très très important, parce que si cette guerre de ce conflit israélo-palestinien, c'est ce que je viens de dire, ça a une conséquence, c'est qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Eh bien, nos ennemis sont très très peu nombreux. Nos ennemis, c'est simplement les dirigeants des multinationales, du pétrole, de l'armement, de tout ce système-là qui est lié, qui évidemment ont intérêt à garder le contrôle du pétrole et à utiliser Israël. C'est aussi les dirigeants des médias, quelques journalistes vedettes qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des mensonges pour le compte des premiers. Mais ces gens-là, ce n'est pas 0,01% de la planète, c'est presque rien ces gens. De toute façon, ce n'est pas eux que vous allez rencontrer ici dans la rue ou au café, ce n'est pas avec eux que vous allez discuter. Donc tous les gens avec qui vous allez discuter, globalement, sont vos amis. Même quand ils disent des énormités, ce sont vos amis. Ils sont les victimes des gens que je viens de dire. Et vous allez tout simplement, puisque ce sont vos amis, devoir prendre le temps et trouver la méthode pour les convaincre, et ça prendra le temps qu'il faut. C'est très très important, je pense, qu'on puisse partir de ce point de vue-là. C'est donc la dernière chose que je voudrais indiquer, c'est quand on discute avec les gens avec qui c'est difficile, il n'y a que ça qui est intéressant, discuter avec les gens avec qui c'est facile, ça n'avance à rien. Discuter avec les gens avec qui c'est difficile, je pense que sur base des nombreuses conversations que j'ai eues et des expériences que j'ai entendues, il faut donner 2 ou 3 conseils. Le premier, c'est qu'il est indispensable de commencer par écouter l'autre. Et c'est pas ce qu'on a tendance à faire spontanément. On entend une énormité. Ah, mais non, c'est pas ça. Et voilà, et en réalité, c'est passé ça, et tu ignores ça, etc., etc. Et on est lancé. Et ça va pas marcher. Il faut commencer par écouter l'autre, bien comprendre ce qu'il dit, bien comprendre quelles sont ses sources d'informations, lui demander. Et lui faire remarquer qu'elles sont suspectes, si vous les connaissez, ou en tout cas qu'il y en a d'autres, et qu'il n'a pas entendu les 2 points de vue. Et puis, plus important encore, il faut écouter l'autre pour comprendre ce qu'il y a de positif dans ce qu'il dit. Je vais vous surprendre, mais même quand il dit des énormités, il y a un truc positif, et il faut le saisir. Pourquoi positif? Et parce qu'il pense lui aussi qu'il défend des valeurs. Il pense qu'il défend un État qui est faible, petit, contre de grands méchants voisins. Ou qu'il défend la liberté contre des fanatiques religieux. Donc il est aussi, lui, animé par une valeur positive. Et c'est seulement si vous avez compris laquelle, que vous avez une chance de lui dire, eh bien tu te trompes parce qu'on te manipule, et si tu fais confiance à ces gens-là, tu vas défendre le contraire de ce que tu veux. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir le convaincre. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on peut évidemment mener toutes sortes de discussions à propos d'Israël, mais la chose la plus importante, c'est de toujours ramener la discussion à l'essentiel, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le colonialisme, le vol de la terre, le fait de chasser un peuple de sa terre, est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Personne honnête et de bonne foi ne peut être d'accord avec ça, et donc vous avez une base d'accord, et à partir de là, on pourra voir le reste, mais il faut éviter les diversions. J'ai eu l'occasion d'avoir un débat à la télévision, chez TADI, où il y avait des sionistes de service, et je commence à critiquer Israël, et directement on me lance, ah mais Ahmadinejad, ah mais Saddam Hussein, vous êtes complice de ceci, de cela, etc. Ça, c'est les diversions, c'est évident. Ils n'ont rien à répondre sur Israël, ils savent que leur dossier est mauvais, ils savent que ce que je dis est irréfutable, et donc il faut qu'ils fassent peur au public en essayant de diaboliser sur « vous êtes amis de ceci ou de cela ». C'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce que deux personnes de Lille ont fait, m'a-t-on dit, en faisant circuler sur Internet aujourd'hui, que j'étais ami avec le diable pratiquement et qu'il ne fallait pas venir ici ce soir. Ce qui est important, c'est de toujours ramener la discussion à l'essentiel, le colonialisme, le vol de la terre, le nettoyage ethnique. Et une troisième suggestion de méthode, dans cette discussion, toujours s'en tenir aux faits. Pourquoi les faits ? Parce que les faits, on peut les vérifier, on peut les prouver, et les émotions, pas. Quand vous discutez avec votre émotion à lui, qui est vous êtes scandalisé par ce qu'on fait aux Palestiniens, parce que les médias mentent, etc. Mais lui aussi, comme je l'ai dit, il est scandalisé. Parce qu'il pense lui aussi qu'il y a des choses injustes et qu'il défend des bonnes valeurs. Et le problème, c'est que émotion contre émotion, on ne va jamais y arriver. La seule manière d'y arriver, c'est pour vous de rationaliser la discussion et de la ramener aux faits et de dire « vérifions qu'est-ce qui s'est vraiment passé ». Et ça, on peut le vérifier dans un bouquin, sur Internet, partout. On peut aller voir les faits. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter d'ailleurs. Il ne faut sûrement pas exagérer. Les faits suffisent largement. Troisième et dernière suggestion de méthode, peut-être la plus importante. Il est essentiel, quand vous discutez avec quelqu'un et que c'est difficile, de ne pas vouloir emporter la décision en 5 minutes. Parce qu'on ne convainc pas quelqu'un sur une chose aussi profonde en 5 minutes. Et ça ne serait pas profond. Et il faut plutôt essayer de faire réfléchir. C'est-à-dire que quand la personne dit quelque chose qui est faux, il faut essayer de montrer la contradiction. Tu dis ça, mais dans ton propre camp, il y a des gens qui disent ça et ça. Donc il faut évidemment connaître le dossier pour le faire. Mais si vous arrivez à le mettre en contradiction avec des choses de son propre camp, de ses propres sources, à ce moment-là, vous allez lui dire « Ah ben oui, effectivement, il faut réfléchir. » Et à ce moment-là, la petite graine est semée, le processus va arriver, et un jour, il va vous revenir en disant « J'ai réfléchi, j'ai entendu ça. Tiens, c'était pas aussi simple que je croyais. » Et alors, vous avez gagné. Donc, je pense qu'au niveau de la méthode, écouter l'autre, s'en tenir à l'essentiel, s'en tenir aux faits, et faire réfléchir, montrer les contradictions, c'est vraiment une méthode qui nous aide à faire avancer. Je voudrais juste ajouter cette idée-ci. C'est que j'ai insisté sur votre responsabilité à vous. Je pense que vraiment, oui, les médias sont puissants, mais vous êtes le média le plus puissant du monde en ce sens que vous avez la possibilité de discuter personnellement avec les gens autour de vous, de suivre cette discussion, de vous adapter à la personne et de vraiment faire avancer les gens. La télé, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas discuter vraiment avec les gens. Donc, vous êtes le média le plus puissant du monde. Et je pense que si on le fait avec la confiance que c'est possible de gagner, avec une connaissance concrète du dossier et des faits de base, et avec une méthode, une stratégie patiente et efficace, on va certainement pouvoir faire changer l'opinion publique. Et c'est très très important, parce qu'il y a ici des actions que je salue et que je soutiens pour le développement du boycott, et je pense que c'est aujourd'hui une action essentielle pour faire plier Israël. Israël est un État virtuellement économique, virtuellement en faillite sur le plan économique, et donc il faut absolument peser sur ses exportations vers l'Europe et le décrédibiliser. C'est tout à fait possible. Mais pour que le boycott ait plus d'adeptes, qu'on puisse organiser aux portes des Carrefour et des Auchan le samedi matin des grands groupes de gens qui vont expliquer aux gens n'achetez pas ces produits parce qu'ils servent à bombarder, parce qu'ils servent à chasser les gens de leur maison, à tuer des enfants, pour qu'il y ait plus de gens qui y aillent et qui vous soutiennent, il faut avoir fait l'info, il faut avoir gagné la bataille de l'info, la chose dont nous avons parlé ce soir. Et là, je voudrais insister que nous avons une arme importante qu'il ne faut pas sous-estimer dans cette bataille de l'info, et c'est Internet. Je l'ai mentionné, nous avons ce site michelcolombe.info qui compte 8000 visiteurs par jour. 8000 visiteurs par jour. Évidemment, dans les 2 dernières semaines, je ne vous dis pas des chiffres exceptionnels. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont s'informer comme ça, se former, recevoir des informations concrètes qui leur permettent de discuter autour d'eux. On peut imprimer une petite feuille, la montrer aux collègues, aux voisins, etc. et discuter sur base de ça. Mais ça montre une chose, c'est que les gens veulent bouger, ils veulent faire quelque chose, ils se posent la question de qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau d'informer nous-mêmes. Et je pense que ce qui me frappe, non seulement depuis Gaza, mais depuis quelques années, mais ça n'arrête pas de grandir, c'est que partout comme ici, il y a de plus en plus de gens qui veulent être actifs dans l'information, dans la contre-information, dans le travail de boycott et de solidarité, ce qui place Israël et ses parrains, l'Europe et les États-Unis, dans une position de plus en plus difficile. Donc on peut absolument avoir confiance qu'on va gagner cette bataille de l'info, et on va la gagner d'autant plus vite qu'on s'organisera le mieux et le plus efficacement possible. Je voudrais insister sur cette idée. Parfois, on a l'impression que c'est décourageant, qu'on n'y arrivera jamais, qu'à chaque guerre, ils répètent les mêmes médias mensonges et que rien ne change. Et on a l'impression, comme on le dit souvent, qu'on est juste chacun une petite goutte d'eau dans la mer. mais je voudrais juste qu'on réfléchisse un instant ensemble à cette idée qu'au fond, une vague, c'est rien d'autre qu'un très grand nombre de petites gouttes qui vont tous, en tout ensemble, dans la même direction, avec force. Je vous remercie énormément.
Qu'est-ce que vous pensez de Radio Campus ?
Radio Campus 106,6, à l'image de ses auditeurs.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
Nous avons dit souvent que si l'opinion états-unienne était mise au courant de l'injustice qui est commise en son nom contre 5 Cubains, emprisonnés aux États-Unis depuis 12 ans déjà, elle réagirait en exigeant leur libération. C'est la bataille qui est livrée au cœur même de l'Empire états-unien qui ouvre aujourd'hui. Cinq contre le terrorisme. Il y a quelques jours, le comité FIDE-FIFE des États-Unis présentait à la presse, lors d'une conférence, des preuves sur les paiements faits par le gouvernement états-unien à un groupe de journalistes des médias les plus influents de Miami en échange de la publication, préalablement et durant le procès intenté dans cette ville contre nos compatriotes, d'articles et informations contre eux. Le but ? Influencer négativement l'opinion contre ces Cubains qui n'avaient fait qu'infiltrer les groupes terroristes de l'extrême droite de l'immigration cubaine en Floride, qui organisent tout type d'attaques et d'attentats contre notre pays pour prévenir les autorités cubaines et éviter plus de morts et de souffrances au peuple cubain. Les actions perpétrées contre Cuba ces 50 dernières années ont provoqué plus de 3000 morts et 2000 handicapés à vie. L'Association nationale des avocats des États-Unis, qui a défendu des cas de connotation politique liés à des mauvaises conduites du gouvernement depuis 1937, a pris part à cette conférence de presse. Il s'agit de la première organisation des avocats qui s'est prononcée en faveur d'un traitement juste des clients marqué par le gouvernement durant des périodes pendant lesquelles les garanties fondamentales prévues dans la Constitution états-unienne n'ont pas été respectées. Heidi Bogosian, la directrice exécutive de cette association d'avocats, a participé à la conférence de presse organisée par le Comité national FIDE-FIFE et au cours de laquelle elle a fait une intervention où elle a souligné que le procès des cinq a été l'un des plus intolérables car il a mis en évidence des violations de la loi des changes en matière d'éducation et d'information datant de 1948 ou de la loi Smith-Moon.
The timing of the paid for journalism suggests the concerted plan existed to taint the judicial proceedings.
L'utilisation de journalistes payés fait penser qu'il existait un plan qui avait été concocté pour nuire aux procédures judiciaires et faire pencher la décision des jurés vers un verdict de culpabilité, privant ainsi les accusés du droit, en vertu du sixième amendement, à avoir un procès juste avec un jury impartial. Il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que les articles mensongers écrits par les reporters payés par le gouvernement ont eu un impact sur l'opinion, sur le tribunal et sur l'ensemble du 11e circuit d'appel concernant l'affaire des cinq, a déclaré Heidi Bogosian, qui a expliqué qu'en payant aux reporters pour qu'ils s'éloignent des principes établis dans le journalisme de justice et de vérité, le gouvernement est devenu complice de manipulation du jury. Dans le cas des cinq, avant l'ouverture du procès, une campagne de propagande très agressive avait été lancée. Ils étaient accusés de se livrer à l'espionnage. La campagne a atteint ses buts. La troïka de juges du 11e circuit a cité la norme légale d'une publicité nuisible préalable au procès qui sature la communauté à tel point qu'il est pratiquement impossible de garantir un procès juste. La directrice de l'Association nationale des avocats a ajouté que parmi les arguments brandis pour annuler le verdict du tribunal en 2005, la Troïka avait signalé que cette publicité avait été combinée à d'autres facteurs pour créer un orage parfait qui n'a pas permis un procès juste. Elle a souligné que le gouvernement a l'interdiction légale de mener à bien des opérations de propagande conçues pour appuyer les politiques anticubaines de l'administration, car l'existence d'articles payés par le gouvernement porte préjudice au processus démocratique. Les injustices commises contre les cinq ne cessent de s'alourdir. Nous vous faisons part de la plus récente. Le 8 décembre 2009, Ramon Lavagnino a eu une nouvelle audience de sentence, au terme de laquelle le tribunal de Miami a changé la peine qu'il avait dictée en 2001, une prison à vie plus 18 ans de prison, en 30 ans de prison. Cependant, depuis le 27 avril dernier, Ramon attend d'être transféré à un pénitencier de moyenne sécurité. Entre-temps, il est confiné en solitaire dans la prison de haute sécurité du Kentucky. Il y a passé, mercredi, son 47e anniversaire. Les autorités carcérales brandissent comme argument pour maintenir Ramon au trou des prétendues raisons de sécurité pour lui. Mais, comme l'a bien souligné sa femme, Elisabeth Palmeiro, dans des déclarations exclusives à notre station de radio, la réalité est qu'entre-temps, Ramon se trouve dans les mêmes conditions d'isolement que durant les 17 mois passés en solitaire après son arrestation en 1998, aux côtés de ses camarades Fernando, Antonio, Gerardo et René. En effet, ils avaient été arrêtés le 12 septembre 1998. Ils ont fait l'objet d'un procès unique à Miami, au terme duquel ils avaient été condamnés à des peines démesurées, et cela bien qu'aucune preuve étayant le chef d'accusation qui leur était imputé n'avait été présentée. Elisabeth Palmeiro a commencé par remercier Radio Havana de sa contribution pour faire connaître la vérité sur l'affaire des cinq. Je voudrais tout d'abord remercier les camarades de cette station de radio de la possibilité qu'ils me donnent de m'adresser aux amis du monde. Lors de nos voyages, nous rencontrons beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont au courant de l'affaire des cinq car ils écoutent les émissions de Radio Havana Cuba. Au sujet de la situation de son mari, Elisabeth Palmeiro a déclaré.
Il
a été amené au trou où il est soumis aux mêmes conditions que les prisonniers qui commettent une indiscipline, même s'il n'en a commis aucune. Dans les cellules insolitaires, les prisonniers n'ont aucun avantage ou traitement différencié. Quand ils y arrivent, ils sont habillés avec l'uniforme orange. Ils sont privés de toutes leurs affaires et ils sont mis dans une cellule chacun. Le trou, c'est l'endroit où les prisonniers ayant été punis sont amenés tant que durera l'enquête sur l'indiscipline en question, que ce soit une dispute, une bagarre. Souvent, il y a des morts ou des blessés, car dans ce type de prison, il y a des bandes qui s'affrontent entre elles. Dans le cas de Ramon, comme il est un prisonnier qui ne constitue pas un danger pour le reste, pour le préserver, ils le mettent au trou, où il est soumis aux mêmes conditions que ceux qui sont punis. Il ne peut pas réaliser des appels téléphoniques, par exemple. Il me dit dans une lettre que j'ai reçue fin mai qu'il a été mis dans une espèce de cage d'un mètre pour un mètre et demi où il pouvait à peine rester debout. C'est l'endroit où les prisonniers violents sont mis. Il y a été mis en attendant qu'une autre cellule se libère, car il ne voulait pas le mettre avec d'autres prisonniers. Il est classé maintenant comme un prisonnier de sécurité minimale et s'il lui arrivait quelque chose, la prison pourrait faire l'objet d'une plainte pour ne pas avoir garanti la sécurité de cet homme. Il pensait qu'il y passerait une semaine ou 15 jours au plus, mais cela fait un mois et une semaine qu'il y est. Je pensais que pour son anniversaire, il aurait déjà été transféré dans une autre prison. Nous ne savons pas encore laquelle, mais le temps passe et Ramon reste au trou. 5 contre le terrorisme.
Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones.
Son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes para ti, así de grandes para ti.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares. Y academias militares, pero no tienen corazones.
Los dinamitas son pequeñitos, sí.